20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Georgie, c'est le magazine qui revient sur les événements marquants de notre actualité d'hier à aujourd'hui. Ce soir, notre Georgie est le 13 septembre 2019, jour de l'incarcération de Patrick Balkany à la prison de la Santé.
RTL Soir.
Patrick Balkany dormira donc ce soir à la prison de la Santé. Le maire de Levallois-Perret a été condamné cet après-midi pour fraude fiscale. 4 ans ferme avec incarcération immédiate.
Nous sommes le 13 septembre 2019. Escorté par 3 policiers, Patrick Balkany quitte la salle d'audience du tribunal correctionnel de Paris par la petite porte qui mène au geôle du palais de justice. Conformément aux réquisitions du procureur, le maire de Levallois, surnommé aussi le roi de Levallois, est condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Ce soir donc, il dormira à la prison de la Santé. L'heure n'est plus à la fanfaronnade. L'homme de 71 ans, qui est entré tout à l'heure dans la salle d'audience en toute décontraction, en tout cas en apparence, est désormais assommé, déboussolé. Il n'avait même pas préparé ses affaires, pas même un petit sac dans l'optique de son incarcération. Son épouse, Isabelle Balkany, se lève, vacillante, pour une dernière étreinte. Pour elle, ce sera 3 ans de prison ferme, mais sans incarcération, son état de santé ne le permet pas. Il y a 5 mois, le 26 avril 2019, Isabelle Balkany a tenté de mettre fin à ses jours à 72 ans, se disant épuisée de ce monde d'une violence insoutenable, épuisée de voir souffrir l'homme de sa vie. « On s'est payé Balkany », s'indigne son avocat, maître Éric Dupont-Moretti. Le ténor du barreau, comme son client, n'avait-il pas senti le vent tourner ? Visiblement non. En tout cas, il ne le dira pas et se déclarera sidéré par la gravité d'une décision qui banalise le sens de l'incarcération. Faut-il aller en prison lorsque l'on a caché au fisc, par le biais d'un savant montage, un patrimoine de 13 millions d'euros, comprenant un riad à Marrakech, dont les époux nient toujours la propriété, et 2 villas sur l'île de Saint-Martin ? Ou à travers cette décision de justice, les Balkany payent-ils pour des décennies d'impunité ? Une chose est sûre, c'est au sein de ses plus proches que se trouvait la grenade dégoupillée qui a envoyé Patrick Balkany à la Santé. Didier Schuller, ancien élu des Hauts-de-Seine et ancien bras droit de Patrick Balkany, détenteur des secrets d'une bonne partie de la droite française, lassé de payer pour les autres, a un jour tout balancé. Retour ce soir sur une vie de jeu, de coups de poker, en coups de bluff. L'histoire d'un roi, celui des Hauts-de-Seine, qui finira par passer par la case prison. Dans un instant, Julien Martin, journaliste au service politique du Nouvel Obs, sera notre invité pour revenir sur la saga Balkany. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes en direct sur RTL, merci d'être avec nous. Ce soir, notre jour J est le 13 septembre 2019, jour de l'incarcération de Patrick Balkany à la prison de la Santé. Le maire de Levallois est condamné pour fraude fiscale. Julien Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste au service politique de Nouvel Obs. Vous êtes également auteur du livre Les Balkany, que l'on trouve en e-book sur les sites marchands. Livre épuisé tellement il a fonctionné, c'est dire si les Balkany en fait, attire évidemment les lecteurs. Alors justement, la question, c'est qui sont les Balkany ? D'où viennent-ils les l'un et l'autre ?
Alors, les Balkany, déjà, Isabelle Balkany dit toujours qu'elle déteste cette expression parce que ils s'aiment profondément, ils ont été quasiment toute leur vie, pendant 40 ans, unis, pratiquement sans discontinuer.
Pratiquement,
on y reviendra. Pratiquement. Elle dit toujours, on est 2 entités différentes. Et de fait, en réalité, ils sont très complémentaires. Mmh. Mais qui dit complémentaire, dit très différent. Et Patrick Balkany, c'est le show, la gouaille, la proximité avec les gens, l'échange. Et Isabelle Balkany, c'est la réflexion, l'organisation. Elle est en public un peu plus froide, même beaucoup plus froide que son mari. Moi, je les compare souvent à un des meilleurs amis du couple, Johnny Hallyday, qui était qui aurait été rien sans ses producteurs, sans Camus par exemple. Et c'est un peu ça, c'est un peu l'artiste, la bête de scène, Patrick Balkany.
Qui voulait être comédien, qui voulait faire du cinéma, qui a fait d'ailleurs un petit peu de cinéma.
Qui adorait les paillettes, qui a été à Cannes.
Et il aime la bamboche.
L'impresario, la productrice qui aime beaucoup moins la bamboche, qui aime moins les soirées mondaines, Isabelle Balkany. On dit parfois, en raccourcissant, que c'est la tête et les jambes, c'est un peu plus compliqué que ça, mais l'idée est assez proche.
Alors, c'est très étonnant parce que c'est un couple à la fois, je dirais, très impopulaire et populaire. J'ai eu, en préparant cette émission tout à l'heure, Isabelle Balkany au téléphone. On va l'écouter dans un instant parce qu'elle revient sur ce jour où tout a basculé. C'est très étonnant parce que c'est une femme, je dirais, qui arrive à s'attirer la sympathie. C'est quelqu'un d'éminemment sympathique, chaleureux, facile d'accès, Isabelle Balkany.
C'est Patrick Balkany qui arrive à s'attirer davantage la sympathie du grand public. Isabelle Balkany, elle s'attire la sympathie, c'est presque plus important, de ses proches. Elle a un clan, elle a un amour indéfectible d'amis, elle est très fidèle en amitié. Quand on fait partie de la famille ou du clan Balkany, on en fait partie pour toujours, on s'entraide dans les moments durs comme dans les moments plus faciles évidemment. Et Patrick Balkany, lui, il est davantage politique. Il arrive plus à se faire apprécier des gens.
Enfin, ils sont étonnamment accessibles quand même.
Ils sont très accessibles. Ils sont très accessibles. Ils sont très paradoxaux en ce que ils sont très accessibles. Ils adorent les médias. Ils répondent tout le temps au téléphone quand on les appelle. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, c'était les porte-parole médiatiques de Nicolas Sarkozy. Et en même temps, ils vivent cachés. Ils ont vécu cachés des tonnes d'années et on a découvert des pans entiers de leur vie à l'occasion des procès, à la lecture des investigations policières durant les audiences. Et en fait, ils cachaient ce qu'ils avaient envie de cacher et ils montraient ce qu'ils avaient envie de montrer.
Donc ils jouent en fait entre l'ombre et la lumière. Isabelle Balkany, on va l'entendre, revient sur ce jour, hein, notre jour J, le 13 septembre 2019, où tout a basculé. Écoutez-la, on en reparle juste après.
Vous avez choisi ce jour J, évidemment ça a été un jour J, mais totalement schizophrénique. Ma raison me disait, il n'est pas un danger pour l'ordre public, il a 73 ans, on parle beaucoup d'individualisation de la peine, alors voilà, bon. Mon cœur me disait, c'est pas possible, je peux pas être séparée de mon homme, en plus, il avait failli mourir.
Est-ce que vous en parlez souvent, tous les deux, ou est-ce que ça fait partie
jamais
de ces jours J qui sont
jamais tus? Nous n'en parlons jamais, et vous voulez que je vous dise Alors, pourtant, je n'ai pas l'impression d'être totalement sénile, je vous confirme que je n'ai pas Alzheimer, je ne me rappelais même plus, c'est vous qui venez de me rappeler que c'était un 13. Et puis, l'incarcération, vous savez, c'est physique, mais c'est aussi psychologique. L'enfermement est aussi un enfermement sur soi-même. Il a eu une période à la maison d'enfermement psychologique que j'ai tellement mal vécu moi-même que j'ai voulu m'endormir, on va dire comme ça, une deuxième fois. Oui.
Julien Martin le précise, hein, Isabelle Balkany, j'ai voulu m'endormir une deuxième fois, c'est-à-dire mettre fin à ses jours une deuxième fois. Est-ce que vous étiez au courant de cette information?
Non, j'étais pas au courant. Je l'ai assez fragile psychologiquement. Je sais que pour eux, plus dur a été la chute. Et évidemment, ils menaient grand train et c'est la prison, les épreuves judiciaires, c'est facile pour personne. Peut-être encore plus dur à encaisser quand on tombe d'encore plus
de si haut. Au-delà de cette information qui est éminemment grave que nous a confiée Isabelle Balkany tout à l'heure, on a le sentiment aussi qu'elle se livre facilement sur ce genre de choses. On a le sentiment que ce qui passe par la tête, par le cœur parfois d'Isabelle Balkany est livré assez aisément. Est-ce que c'est une facilité à parler? Est-ce que ça peut s'apparenter aussi à une façon d'attirer, au-delà de la gravité de ce qu'elle nous dit, une forme d'empathie?
Et ce sont des gens qui ont toujours fonctionné sans beaucoup de filtres, qui disaient ce qu'ils pensaient, ce qu'ils ressentaient. Et aujourd'hui, ils n'ont plus grand chose à perdre quand on a déjà perdu beaucoup, peut-être que ça libère encore plus la parole avec aussi l'âge, les épreuves traversées, et puis peut-être enfin dire la vérité, parce que c'est pas la vérité qu'ils ont donné le plus dans leur vie.
On va se retrouver dans un instant, justement, cette vérité qui a fini par éclater, évidemment, qui a provoqué aussi cette fameuse chute que l'on traitera. Dans un instant, on va écouter le couple Isabelle et Patrick Balkany à Levallois au conseil municipal. Il s'y passe des choses au conseil municipal. Et puis, on parlera de cette fameuse ville que Isabelle Balkany décrivait tout à l'heure quand je l'avais au téléphone comme son bébé. Voilà, la vie des Balkany à Levallois, ce sera dans un instant dans Jour J. Nous sommes en direct jusqu'à 21h. À tout de suite.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes en direct sur RTL, mais également sur l'application Radio Player France, sur RTL.fr si vous souhaitez allier l'image au son. Jour J revient ce soir sur la saga Balkany, 2 ans jour pour jour après l'incarcération de Patrick Balkany. C'était donc le 13 septembre 2019. Julien Martin est notre invité. Julien, Isabelle et Patrick Balkany, c'est un couple à la ville, je dirais, comme à la scène. Pendant 31 ans à la mairie de Levallois, il faut dire que le spectacle avait lieu quand même au conseil municipal. On parlait de la personnalité et du caractère à la fois indissociable et extrêmement complémentaire d'Isabelle et de Patrick Balkany. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'ambiance. On écoute.
C'est pas possible à ce point-là. Mais vraiment, on en a marre du socialisme en France. Vivement, vivement le changement. Vivement dans 2 ans, qu'on vous voit plus.
Non, monsieur le maire, calmez-vous.
J'en ai marre.
Monsieur le maire.
Vous avez foutu le pays en l'air en 2 ans, en 2 ans, 3 ans. Alors maintenant, ça suffit.
Alors, qu'est-ce que ça dit d'eux, Julien Martin? Vous êtes notre invité, vous êtes l'auteur du livre Les Balkany, donc vous les connaissez, hein, vous les avez étudiés, je dirais. Qu'est-ce que ça dit d'eux, ces comportements?
Ils considèrent leur ville de Levallois, justement, comme leur ville. C'est leur propriété, ils ont façonné cette ville.
Et elle parle de leur bébé, hein, c'est ce qu'elle m'a dit aujourd'hui.
C'est exactement ça. Et il y a Louis XIV qui disait « L'État, c'est moi ». Balkany répétait souvent « Levallois, c'est moi ». Sauf qu'en réalité, Levallois, c'est eux. Parce que ils étaient tous les deux à la tête de la ville. Hein. Lui était maire, elle a d'abord dirigé la com avant de devenir première adjointe. Il régnait et il détestait la contradiction. Il dirigeait leur ville comme on dirige une entreprise. C'est-à-dire que quand on préside le conseil d'administration, en fait, on a les pleins pouvoirs et la majorité vaut unanimité.
Alors justement, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il est devenu maire en 83?
Alors, il devient maire après avoir longtemps insisté pour avoir un point de chute électoral auprès du RPR, et notamment auprès de Charles Pasqua, qui s'occupait beaucoup des investitures à l'époque. Il réclame un point de chute alors qu'il est complètement inconnu. On l'envoie à Auxerre. Pas pour gagner, pas parce que c'était gagnable, on l'envoie à Auxerre parce que il y a Jean-Pierre Soisson là-bas et c'est le numéro 2 de l'UDF et à l'époque il y a une guerre entre le RPR et l'UDF et donc on lui envoie un petit roquet et le petit roquet fonctionne plutôt pas mal et demande
mieux qu'on l'imagine,
il met Jean-Pierre Soisson en ballotage qui est vraiment le maître le Balkany d'Auxerre à l'époque.
Indéboulonnable.
Voilà,
a priori. Indéboulonnable
et il arrive à le mettre au second tour en ballotage et c'est presque au relais de cette victoire qui revient à Paris et il demande un autre point de chute un peu plus proche et Pasqua lui fait pas vraiment un cadeau parce qu'il lui donne Levallois et en fait Levallois est incagnable, appartient aux communistes et Pasqua le sait bien parce que lui-même s'est cassé les dents 2 fois à Levallois, donc c'est pas le petit jeune Patrick Balkany qui va réussir et là-bas ils vont conquérir la ville d'une main de maître, ils vont d'abord essayer de louer une permanence et le maire communiste par fégeance leur permettra pas, donc ils vont acheter un local juste en face de la mairie 43 rue Trébois, ils y sont toujours, enfin ils y étaient toujours jusqu'à récemment, ils vont créer une mairie bis avant même d'être élu et ils vont proposer des services aux gens aux uns après les autres à qui un emploi, à qui un logement, à qui une aide pour ses parents ou ses enfants. Ils vont comme ça flatter les égos et être accusés ensuite de clientélisme et eux d'ailleurs répondent très facilement au clientélisme en disant Si le clientélisme, c'est faire plaisir aux clients, c'est-à-dire aux électeurs, oui, on est clientéliste. Et eux, ils ont une conception de la politique qui n'est pas une conception tout à fait de l'intérêt général. Ils ont pour eux, c'est conquérir une majorité d'intérêts particuliers. C'est s'ils arrivent à satisfaire 51% des intérêts particuliers, ils ont gagné parce qu'ils sont élus. Et c'est comme ça qu'ils vont conquérir le Valois et surtout garder, conserver le Valois.
Comment ça se passe en coulisses de ce premier mandat? Est-ce qu'il y a déjà des soupçons qui pèsent sur le couple Balkany?
Alors, on est à une époque, 83, où il n'y a pas encore de véritable loi de financement électoral. D'ailleurs, il y aura beaucoup de choses dites sur cette campagne, notamment par Didier Schuller, un bras droit qui deviendra un premier ennemi, on y reviendra. Beaucoup d'argent, lui, parle de valises de billets d'un entrepreneur de Sologne. Il l'a dit publiquement, il l'a dit au juge. Beaucoup d'argent qui circulait comme ça, pas qu'à Levallois, ailleurs aussi. Et il y a eu des soupçons à Levallois, comme beaucoup de villes gagnées par le RPR à l'époque, qui, dit-on, se remplissaient les caisses avec des opérations immobilières. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Valois va être un modèle d'opérations immobilières, parce que quand ils récupèrent la ville, c'est une ville communiste, assez pauvre, pas très construite, et ils vont en faire un chantier permanent, ils vont ériger des tours, et le Valois va avoir un titre qui va être la ville à la fois la plus endettée de France, mais aussi la ville la plus dense d'Europe. Tellement ils vont construire à Levallois, et pendant des années et des années, on va même leur reprocher à un moment.
En 96, Patrick Balkany est condamné pour avoir rémunéré aux frais du contribuable trois personnes de la mairie qui travaillaient à son domicile. C'est là qu'il quitte Levallois et qu'il part à Saint-Martin. Et là, il a une vie sur l'île de Saint-Martin qui a l'air d'être plutôt sympa. Je dirais qu'il renoue avec ses anciens plaisirs, quoi.
Sa condamnation, d'abord, ça illustrait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, il faisait travailler des gens de la mairie chez lui, à son domicile privé, preuve d'un mélange des genres assez flagrant. Quand il perd Levallois, c'est une période aussi où il va se séparer d'Isabelle Balkany. Et en fait, Isabelle Balkany dira elle-même, on a une coupure du son et de l'image pendant presque une année, et tout va s'écrouler. La politique, le couple, sans qu'on sache vraiment lequel est tombé à craquer le premier. Et ils vont vivre à Saint-Martin. Lui d'abord.
Il va faire de la radio.
Il va acheter une radio, il va devenir propriétaire. Ils vont d'abord même diffuser illégalement avant d'obtenir une autorisation avec Stéphane Collaro. Et ils vont faire les 400 coups avec Stéphane Collaro, avec aussi un invité qui va avoir son yacht, qui va mouiller au large de Saint-Martin pendant 6 mois, qui s'appelle Johnny Hallyday.
On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, parler de la chute aussi. Vous l'avez prononcé, ce nom, Didier Schuller, à l'origine, je dirais, de la chute des Balkany. Ce sera dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Georgie qui revient ce soir sur la vie d'Isabelle et Patrick Balkany, une vie de coups de théâtre, en coulisses en tout cas, se joue déjà leur chute. En 2013, tout bascule. Julien Martin, avant que nous parlions justement ensemble de la chute des Balkany, on les a quittés séparés, vous le dites, plus de son, plus d'image pendant un an. Patrick Balkany, suite à une condamnation, est parti vivre sur l'île de Saint-Martin, où il retrouve effectivement Johnny Hallyday, où il retrouve Stéphane Collaro, où il fait de la radio, une vie qui lui, somme toute, qui lui convient bien, parce que vous nous avez décrit un personnage, on peut imaginer qu'il est plutôt heureux en maillot de bain Villebrequin sur la plage à manger des langoustes, quoi.
Il est heureux, il fait la fête... Isabelle Balkany s'occupe de décoration.
Elle le rejoint.
Et elle finit par le rejoindre. Ils commencent à se parler. Ils se retrouvent à Cuba. Ils apprennent d'ailleurs la dissolution de l'Assemblée nationale à Cuba.
Ouais.
Mais en fait,
la politique, ça le démange quand même.
Mais oui, en fait, il s'emmerde. Et il le dit lui-même. Et il a beaucoup aimé ses vacances. Mais parfois, on s'ennuie un peu en vacances. Au bout d'un moment, et ben lui, là, il s'est ennuyé. Et il essaye de...
Est-ce qu'il a pris des nouvelles un peu de ce qui se passe à Levallois à ce moment-là?
Il en prend tout le temps. Il a des antennes là-bas. Ils essayent de... lui, il ne peut pas se faire réélire à Levallois. Alors, c'est elle qui se présente aux législatives. On ne le sait pas beaucoup. Et elle perd parce qu'elle fait beaucoup moins bien bien campagne que lui en réalité. Et puis le temps de la rédemption n'est pas encore venu. Et le temps de la rédemption va venir grâce à celui qui a causé leur chute, c'est Olivier de Chazeau, un maire très sobre. On l'a élu parce qu'on en avait marre des frasques de Patrick Balkany. Et on va réélire, quand je dis on, c'est évidemment les Levalloisiens, on va réélire Patrick Balkany parce qu'on en avait marre de la sobriété d'Olivier de Chazeau. Et il va revenir en seigneur et être réélu dès 2001 et retrouver son fauteuil de maire.
Mais le préfet quand même va contester son élection en raison de sa condamnation à l'inéligibilité.
Voilà, exactement. En 96, quand il se fait condamner, il est condamné à une peine d'amende et il n'a pas fini de payer son amende et on ne peut pas se présenter à une ville dont on est comptable de fait, voilà, envers laquelle on a encore une dette et qu'à cela ne tienne, il se représente en 2002 aux nouvelles élections municipales partielles et il est cette fois-ci définitivement réélu.
Alors donc là, il est définitivement réélu. On peut imaginer que c'est le retour dans la lumière et que tout va bien. Or, déjà se joue, je dirais, quelque part aussi la chute de Patrick Balkany. Comment le château de cartes s'est-il écroulé? Parlez-nous de Didier Schuller. Quelle était leur relation?
Alors, comme souvent avec Patrick Balkany, la relation a commencé avec la fête et avec les sorties dans les lieux parisiens mondains et festifs. Et ils aiment bien, ce sont plutôt des nouveaux riches qui aiment bien fréquenter, s'amuser, de la danse, les femmes et
des affaires.
Et les affaires, évidemment, et l'argent. Surtout l'argent. On est dans les années 80-90, l'argent roi, Jean-Marie Messier. Enfin, c'est pas honteux et même on s'en glorifie. Didier Schuller va toujours aider Patrick Balkany. Ça va être à la fois un homme très important et aussi une sorte de petite chose à côté de Patrick Balkany. Il va lui être dévoué au point où éclate en 95, pour faire rapide, l'affaire Schuller-Maréchal qui va causer la chute de Balladur et de certains Balladuriens. Pour sauver la face des Balladuriens, on décide de sacrifier Didier Schuller et Didier Schuller s'enfuit. Dans tous les endroits il y a du soleil et des paradis fiscaux et va finir par rester quelques années à Saint-Domingue jusqu'en 2002 où il décide de revenir. Et quand il revient, il n'a plus rien, c'est un pestiféré, quelques amis lui donnent encore un peu d'argent, dont Patrick Balkany, et il explique qu'il va chercher de l'argent de poche auprès de Patrick Balkany.
Et
un jour, ses ambitions reviennent, il se reconstruit, et il décide de briguer la mairie de Clichy, qui était le fief de Didier Schuller. Ce qui unissait aussi Schuller et Balkany, c'est que dans la circonscription de Patrick Balkany, il y a deux villes, Levallois et Clichy, et pour diriger Clichy par procuration, Patrick Balkany avait installé Didier Schuller. Et quand Schuller veut retrouver son poste à Clichy, il demande le soutien en 2014 de Patrick Balkany, et Patrick Balkany lui refuse.
Et là, vengeance.
Vengeance. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a subi dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle.
En fait, il a payé pour tout le monde.
Il a payé pour tout le monde, il a accepté, il a payé ensuite judiciairement parce qu'il s'est rendu. Et là, Patrick Balkany n'a pas la reconnaissance du ventre, la reconnaissance de rien du tout.
Et qu'est-ce qu'il balance alors?
Et il balance des dossiers judiciaires qu'il a de plusieurs affaires qui ont concerné les Balkany avant, qui conservait dans une petite maison en Alsace où il va chasser, et son grenier était rempli de dossiers judiciaires. Il sort quelques factures, quelques PV qui ont miraculeusement pas été exploités à l'époque.
L'étendue du patrimoine aussi.
L'étendue du patrimoine. Il y a des relevés de comptes en Suisse. Il y a des années de talons de chèques qui avaient été trouvés et non exploités à l'époque par la justice. Et il va les amener dans le bureau du juge Van Rimbeck, qui je pense, j'étais pas là, mais doit ouvrir les yeux et se dire mais comment autant de pièges judiciaires n'ont pas été l'enquête avait déjà été faite vraiment en gros et même parfois en détail, l'enquête avait déjà été faite et les poursuites n'avaient pas été exercées. Et là, cette fois-ci, il échappera pas à la justice et on va sur ces 4-5 années d'investigation jusqu'au procès.
Le procès, ce sera dans un instant. Éric Dupond-Moretti est l'avocat de Patrick Balkany, dont on vient d'apprendre qu'il est propriétaire, en tout cas c'est ce que l'on prétend, d'un riad à Marrakech, de deux villas à Saint-Martin, dont une qui s'appelle la Villa Pamplemousse. 13 millions d'euros de patrimoine, on en parle dans un instant sur RTL.
Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
Merci de suivre Jour J. Nous sommes ensemble sur RTL et également RTL.fr jusqu'à 21h. Le procès des époux Balkany pour fraude fiscale s'ouvre le 13 mai 2019 à Paris. Patrick Balkany arrive au tribunal avec son avocat Éric Dupond-Moretti. Julien Martin, de fort tempérament quand même. Hein.
Ah bah c'est deux forts tempéraments qui...
Tout de suite, on se dit que ça va être intéressant, je dirais.
Oui, qui vont commencer à s'affronter dès la préparation du procès, où en fait, un procès sur toute cette ampleur, ça se travaille énormément, et c'est pas ce que préfère faire Patrick Balkany. Et je pense que Dupond-Moretti est embêté, parce qu'il sait pas par quel bout prendre ce dossier, qu'il faut bien le reconnaître, et un petit peu un cadeau empoisonné. Et on va le voir dès le premier jour d'audience, une opposition... à la fin de l'audience.
On l'écoute tout de suite.
Madame Balkany est dans un état psychologique très fragile. C'est incontestable. Son mari, qui a 71 ans, il l'a découverte inanimée, qu'il a pensé morte.
Bientôt, revenez.
Et baissez le micro.
Ma femme qui a 71 ans.
Oui, c'est pas bien grave.
Si, mais je le dis mal. Mais vous verrez quand.
Alors, bon, c'est une séquence, je dirais, presque culte, hein, maintenant, Julien Martin, qui en dit long sur le début hein, de cette relation, je dirais, entre Patrick Balkany et son avocat. Et quelque part, une réaction, pardon, mais incongrue de la part de Patrick Balkany, dans une situation où, en plus, Éric Dupond-Moretti nous parle de l'état psychologique et physique d'Isabelle Balkany, qui, quelques semaines avant, a fait une tentative de suicide.
Oui.
Ça en dit long sur le côté déboussolé finalement de Patrick Balkany au moment de son procès aussi.
Oui, parce que Éric Dupond-Moretti essaye d'utiliser toutes les ficelles possibles pour essayer de reculer le procès, essayer de reculer l'échéance. Et là, il essaye de faire pleurer sur le sort très triste d'Isabelle Balkany qui a essayé de mettre fin à ses jours. Et Patrick Balkany, en fait. Et comme absent, il n'est pas dans le procès, on se demande où il est. Et en fait, il entend juste son avocat, je pense, parler de ses 71 ans alors qu'il n'en a que 70 à ce moment-là.
Et ça, c'est le Balkany show un peu.
Et voilà, en fait, il ne peut pas s'empêcher de faire une blague. Et puis, avec des blagues, il arrive à montrer qu'il va bien alors qu'en fait, on voit bien qu'il n'est pas dans son assiette et qu'il serait à sa place. Et on voit bien après, ça illustre bien toute la difficulté que va avoir... Éric Dupond-Moretti, à défendre un client indéfendable.
Le 13 septembre 2019, le verdict tombe. Voici ce qu'on entendait sur RTL.
RTL soir.
Céline, Patrick Balkany en prison et Levallois-Perret sous le choc ce soir.
Celui qui a dirigé la ville quasiment sans interruption depuis 1983 a été condamné aujourd'hui à 4 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité avec incarcération immédiate.
Est-ce qu'il s'y attendait, Patrick Balkany ? Je le disais en début d'émission, il n'avait même pas préparé un sac, rien n'était. C'est comme si. Est-ce qu'il pensait qu'il passerait au travers des gouttes, que
il
la peine serait.
Il a pas voulu montrer de petites valises comme parfois on voit. Est-ce qu'il y en avait une ou pas? On peut le penser quand même. Il y avait des grosses suspicions quand même. Je pense que c'est. Ils ont échappé à la justice pendant 20-30 ans. Je pense qu'ils n'étaient pas préparés à affronter la justice, encore moins la prison. Donc ils essayaient de pas y penser. Lui pouvait s'y attendre. Je pense que elle refusait de l'envisager et on le voit à sa réaction dans la salle où en fait lui écoute...
C'était un moment émouvant, hein, dites-vous.
Oui, c'était un moment émouvant parce qu'en fait on a raconté comment tous les délits qu'ils ont effectués auparavant, qui sont aujourd'hui reconnus par la justice, on a expliqué pendant comment 20 ou 30 ans ils ont joué au chat à la souris et gagné avec la justice. Et puis on s'attend à cette condamnation, on se dit en tant que citoyen presque enfin. Et puis en fait... Quand ils sont sont condamnés, bah ça reste un homme qui va en prison, une épouse qui voit son mari s'éloigner, un enfant, Alexandre, qui est présent à l'audience, qui voit son père partir entre plusieurs policiers. Et effectivement, c'est émouvant parce qu'il y a de l'humain chez tout le monde, y compris chez les Balkany.
Et est-ce qu'en tant que journaliste politique, alors que vous avez suivi, que vous avez découvert aussi en tant que journaliste dans vos investigations, l'ampleur, je dirais, de la fraude, hein, que ne nient pas d'ailleurs hein, les Balkany, est-ce que vous êtes tiraillé, partagé entre plusieurs sentiments, parce que vous savez effectivement que vous avez en face de vous des personnes condamnables par la justice, parce qu'ils ont fait, et en même temps des êtres humains qui effectivement donnent à voir une grande détresse.
La sentence est juste. De toute manière, c'est la justice qui l'a décidé, et la justice est par définition le meilleur juge. Et en même temps, on peut quand même trouver ça émouvant, parce que se réjouir que quelqu'un aille en prison, c'est une victoire pour personne. C'est parce qu'il y a eu forcément au moins des délits avant.
Une incarcération en tout cas difficile pour Patrick Balkany, qui sortira de prison le 12 février 2020, 4 mois après son entrée. On y revient dans un instant avec vous sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors, Julien Martin, les dernières minutes de Jour J. Comment s'est passée l'incarcération de Patrick Balkany? Une épreuve.
Bah, très mal. Je pense qu'elle se passe rarement bien pour les gens, mais lui en plus a des graves problèmes de santé. Des problèmes de santé qu'il avait déjà eu avant, il avait eu des problèmes de dos. Et là il se plaint de douleurs très très fortes au ventre. Il fait comme un infarctus visible, enfin d'après le médecin, de l'intestin.
Quelque chose de grave, très grave.
Quelque chose de très grave, et il va avoir une vraie expertise médicale et qui va être. On se dit que il a encore bénéficié d'un passe-droit pour sortir de prison. Et en fait, à la lecture du rapport médical qui est fait par un pont de la médecine connu pour son indépendance, il va vraiment très mal et il supporte tellement mal l'incarcération que ses jours vont finir par être en danger. Et donc, il y a un magistrat qui va décider même plusieurs magistrats qui vont décider de le libérer pour quand même le garder sous surveillance à domicile.
Isabelle Balkany, évidemment, est devant la prison et l'attend.
Je suis excitée comme si j'avais 2 ans. Retour à la maison et serpillière, je pense, séance de serpillière ce soir, parce que je pense que nos 3 toutous vont être tellement contents de le voir qu'il va falloir essorer quelques pipis.
Et elle dira par la suite, on va passer une soirée tous les deux, je vais m'occuper de lui. On a véritablement le sentiment que voilà, il se retrouve et il y a encore une fois quelque chose de troublant et d'émouvant.
Bien sûr, c'est un vrai couple qui s'aime. Ils s'aiment peut-être d'une façon qui ne plaît pas à tout le monde. Ils s'aiment peut-être à leur manière, mais en tout cas, c'est un couple qui dure, qui s'aime. Et ils l'ont montré, ils n'arrivent pas à vivre l'un sans l'autre. La preuve, ils sont encore amoureux, ils vivent encore ensemble. Et tant mieux. Je pense que ça a été, comme ça a été difficile quand ils étaient séparés à Saint-Martin en 96-97, ça a été difficile ces 5 mois d'incarcération de Patrick Balkany. Et de distance.
Quelle est la prochaine étape judiciaire?
Ben, il y a encore plusieurs étapes judiciaires qui les attendent. Ils ont gagné un pourvoi en cassation sur un des 2 volets de leur affaire. Donc il y a le blanchiment de fraude fiscale. Ils sont reconnus encore coupables. Mais il y avait plusieurs des peines qui ont été jugées inappropriées. Donc du coup, il y a une nouvelle cour qui va devoir statuer sur les peines, pas sur leur culpabilité. Patrick Balkany est mis en examen dans 2 autres affaires encore pour avoir utilisé des employés municipaux, des policiers municipaux en tant que chauffeur, et aussi pour une utilisation frauduleuse de locaux qui appartiennent à la ville à des fins privées, notamment familiales.
Comment vont-ils aujourd'hui? Quand j'avais Isabelle Balkany cet après-midi au téléphone, elle expliquait effectivement leur quotidien, le fait de devoir pointer le bracelet électronique. Moralement, comment vont-ils? Elle parle d'un quotidien très difficile.
Bah, visiblement, si elle dit qu'elle a encore pensé récemment à mettre fin à ses jours, c'est que elle va pas très bien, mais c'est ce que beaucoup disent de ceux qui les côtoient encore aujourd'hui. Je pense que d'un point de vue de la santé, ils vont pas très bien aujourd'hui, ni l'un ni l'autre. Il s'est vraiment jamais remis de ses mois d'incarcération, Patrick Balkany, et ni elle de sa tentative.
Elle le dit, psychologiquement, elle dit c'est vraiment l'enfermement, même au-delà des murs d'une prison. C'est un enfermement intérieur.
Et ils vivent dans un toujours dans un très beau moulin, mais ils ont c'est une sorte de prison dorée. Pour le coup, c'est réellement une prison dorée. Ils peuvent en sortir que quelques heures par jour dans le jardin. Mmh. Et puis surtout, en réalité, tout à l'heure, on parlait de leur ville qui est leur bébé. En fait, on les a privés de leur bébé.
Donc du sens aussi de leur vie. Quoi.
Voilà, du sens de leur vie. Ils ont construit, rebâti une ville à leur manière, et aujourd'hui, ils peuvent plus aller dans cette ville. Et puis, ils ont perdu toute influence, et je pense énormément d'amis, de relations. Ils ont essayé, durant la dernière élection municipale, d'essayer d'adouber des héritiers, et ça n'a pas marché du tout.
Agnès Potier-Dumas, notamment la nouvelle maire de
Notamment,
de
qui
la
était
Valois.
L'ancienne collaboratrice, l'ancienne directrice de cabinet pendant des années de Patrick Balkany, qui a dit à la télé très nettement qu'ils n'auraient aucun poste si elle était élue elle l'a dit pendant la campagne. Ça les a beaucoup blessés, ils ont essayé de changer de poulain, ils n'ont pas réussi, et ils ont perdu énormément d'influence. Et aujourd'hui, à Levallois, on les regarde de deux manières, à la fois en respectant ce qu'ils ont fait à Levallois. Faut pas oublier qu'ils ont quand même été élus par le suffrage universel dans la ville, donc c'est quand même des gens qui les ont élus, et c'est des vraies personnes.
Et qui les ont soutenus aussi.
Et qui les ont soutenus ensuite.
Et d'autres.
Et à la fois comme des personnes qui ont beaucoup fraudé et dont on peut enfin s'éloigner parce que ils sentent un peu trop le souffle.
Merci en tout cas, Julien Martin, d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Voilà, je rappelle donc que vous êtes journaliste au service politique du Nouvel Obs et que vous avez écrit le livre Les Balkany. Merci de nous en avoir parlé de la sorte ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis, c'était passionnant, hein, comme d'habitude. On se retrouve demain dès 20h sur RTL. Nous parlerons du 11 mars 1984. Vous vous souvenez peut-être, vous étiez jeune.
Une histoire de billets.
Ouais, Serge Gainsbourg qui brûle un billet de 500 francs sur le plateau de 7 sur 7 pour dénoncer le racket des impôts, selon ses termes. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Éric Jean-Jean et Bonus Track. Ce soir, Bonus Track spécial Mylène Farmer. Merci à vous tous pour votre fidélité à ce nouveau rendez-vous qui est jour J tous les soirs entre 20h et 21h sur RTL. Je vous souhaite une très bonne soirée, évidemment, et je vous dis à demain.